Alors bonjour à chacun, je suis content de vous revoir. Je crois que je ne sais pas à peu près combien de temps, il y a peut-être une année qu'on ne s'est pas vu. Et je vous transmets les salutations de mon épouse. Elle est sous antibiotiques, elle a une bronchite, elle est vraiment pas bien. Alors, on peut prier aussi pour elle. Nos enfants, pour ceux qui se rappellent d'eux, sont un peu éparpillés. Notre fille aînée est à Lugano, j'étais hier à Lugano pour lui rendre visite. Notre deuxième est à Lausanne, et puis le dernier est encore avec nous, ils sont tous dans les études. Des études des fois qui nous dépassent, parce que c'est vraiment des gros défis que les jeunes ont aujourd'hui. Et pour moi, en tout cas, c'est un privilège, une reconnaissance d'être parmi vous ce matin. Et puis je pense que c'est bien qu'on puisse se recentrer sur la parole. Je crois que la parole est vraiment vie, et nous avons vraiment besoin d'elle pour avancer dans la foi. J'ai besoin d'elle pour aussi avancer dans la foi. Nous allons incliner nos têtes. Et j'avais juste une parole pour une personne ou peut-être plusieurs personnes ce matin. C'est, tu es venu ce matin dans la crainte. Dans la crainte, tu as peur de ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas comment faire. Mais Seigneur aimerait te dire, te donner cette promesse, je serai avec toi. Je serai avec toi et je te conduirai dans les voies, la voie que tu dois suivre. Tu seras même étonné de voir comment j'ai agi. Amen. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, Seigneur. Merci parce qu'elle est vivante. Seigneur, nous ne lisons pas un livre mort. Nous lisons ta parole, ta parole qui est faite chair. Seigneur, nous te remercions pour celle-ci. Seigneur, nous te prions vraiment que tu nous parles ce matin. Seigneur, nous te prions que tu ouvres nos cœurs à ce que tu veux nous dire. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais Seigneur, que nous puissions incorporer ce que tu veux nous dire ce matin. Oui, Seigneur, veuille vraiment la bénir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre du message que j'aimerais vous apporter ce matin, je l'ai intitulé « Attention à la gloire ». Alors, il faudrait juste passer l'image précédente. Voilà. Alors, le chapeau que vous voyez a été vendu aux enchères en 2014 pour l'équivalent, tenez-vous bien, de plus de 2 millions de francs suisses d'aujourd'hui. Alors, vous l'avez certainement reconnu, il a appartenu personnellement à Napoléon Bonaparte. Napoléon, il faut savoir, est parti très tôt de sa Corse natale pour accomplir tout seul, un enfant tout seul, l'école royale militaire de Brienne, une ville qui est près de Troyes en France, au nord-est de la France. Et tenez-vous, il avait seulement 9 ans. C'est un peu rude pour un jeune homme. En résumé, il travaillera beaucoup et deviendra plus tard un redoutable stratège. Il gagnera la majorité des batailles qu'il conduira. Il fera une ascension fulgurante en passant de général à premier consul pour arriver enfin à être empereur des Français. Alors en fait, absolument authentique, que souvent on oublie, c'est que lors de sa consécration, c'est-à-dire lors de son sacre, ben c'est lui-même qui va se couronner. Il va se couronner lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui va le couronner. Napoléon est un fin manipulateur. Il écrit souvent à sa femme depuis ses champs de bataille pour lui raconter bien entendu ses victoires. Et il le fait volontairement parce qu'il sait que sa femme aime bien recevoir. Et puis que sa femme va répandre sa renommée. C'était tout à fait calculé. Son autorité ira jusqu'à toucher les affaires intimes des autres. Par exemple, à son frère Lucien, il lui ordonnera de divorcer de sa femme, une femme qu'il aime, pour en choisir une autre qui est d'un autre rang. Alors vous voyez jusqu'où ça va. Son statut d'empereur lui est monté à la tête. Il est devenu important dans toute l'Europe, si bien que à l'époque tout le monde savait qui il était. On peut dire que la bataille de Waterloo en 1815 est tout à fait extraordinaire, car le nom du vaincu est plus connu que celui du vainqueur. Celui qui est vaincu, ben, nous le savons, c'est Napoléon, et on oublie souvent Wellington qui a vaincu Napoléon. Napoléon, suite à cette défaite, sera exilé à Sainte-Hélène, une île perdue dans l'océan Atlantique, où il mourra éloigné de tous à seulement 52 ans. On peut dire de lui, l'orgueil l'a malheureusement égaré. Et là, nous parlons bien sûr d'histoire et de choses du monde. Mais on peut se poser les questions, et là ça se rapproche plus de nous, est-ce que l'orgueil peut entrer dans l'Église? Ça, c'est une question. Pire, est-ce qu'il peut entrer, jaillir dans ta vie, dans ma vie? Et pour répondre à ces questions, nous allons lire le livre le plus court de la Bible, qui est 3 Jean, bravo. 3 Jean, il n'y a qu'un seul chapitre. L'ancien Agaïus, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'écris quelques mots à l'Église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu, celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix, que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salue les amis, chacun en particulier. Alors le contexte, Jean qui écrit cette épître est certainement le disciple qui a vécu le plus longtemps, on pense plus de 90 ans. Sa troisième lettre fait partie de ses derniers écrits. Cette histoire se passe donc à la fin du 1er siècle. Et étant le dernier disciple vivant, il est la personne la plus importante à ce moment. Cette lettre qu'il écrit est vraiment très structurée, comme la plupart des écrits juifs. Les salutations du début sont à relier à celles de la fin. La fidélité de Gaius est à mettre en rapport avec le bon témoignage de Démétrius. Et c'est au centre que se dégage le plus important au verset 9 et 10. Et là, au centre, nous sombrons dans le pire. Nous tombons sur un gros problème, un problème qui a pour nous un homme qui s'appelle Diotrephe. J'ai partagé ce message en trois parties, en parlant de l'orgueil. D'abord, nous allons parler de Diotref, les antidotes et finalement les exemples qui sont Gaius et Démétrius. D'abord, Diotref. Contrairement à Gaius, qui a un nom courant pour l'époque, Diotref porte un nom peu commun, ce qui laisse à penser, selon les spécialistes, qu'il serait issu de la noblesse. Son arrogance serait entre autres expliquée par le fait qu'il vient d'un milieu distingué, bien que cela ne l'excuse pas. L'orgueil de Diotref se manifeste selon quatre principes. Premièrement, il aime la gloire. Il aime à être le premier, dit le verset 9. La vérité que procure l'Évangile n'est pas entrée jusqu'au plus profond de son cœur. Diotref n'a pas incorporé dans sa vie ce que Jésus a dit dans Marc 9, verset 35. « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Je vais être franc avec toi ce matin. Je vais vraiment te parler cœur à cœur. Et j'aimerais te dire que si ton désir secret qui est à l'intérieur de toi est de briller, tu vas au-devant de frustration. Car tu ne seras jamais content de ton état. Tu en voudras toujours plus. Tu deviendras un éternel insatisfait et tu ne seras jamais satisfait de ta situation. Rien n'est plus éphémère que la gloire. Si tu as le désir de devenir une étoile, même une étoile évangélique, ce qui pourrait être honorable, fais attention, car tu risques de devenir une étoile filante et d'aller vers de grandes déceptions. Et ça, j'aime bien le dire, ta vie n'est pas un sprint, c'est un marathon. Diotref contrôle. La Bible du Semeur traduit « il aime tout régenter », c'est-à-dire tout diriger. Il prend tellement de place qu'il contrôle tout comme un Napoléon que nous avons vu auparavant. L'Église dont Diotref fait partie est devenue son œuvre. Il ne fait qu'un avec cette Église, c'est vraiment son entreprise. Et il ne compte que sur lui-même, sur ses propres capacités, sur son intelligence. Tout est devenu humain. Il a complètement négligé un verset qui se trouve dans le psaume 135, verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il a oublié que c'est Dieu qui doit agir premièrement. Sache que l'œuvre que tu fais pour le Seigneur appartient au Seigneur. Elle ne t'appartient pas. Tu dois pouvoir dire chaque matin, « Seigneur, je te remets l'œuvre que je vais faire, l'œuvre dans laquelle je suis investi. » Et c'est un soulagement quand tu peux le faire en disant, « Seigneur, même si ça va pas trop bien, je te la remets parce que je sais que c'est toi qui vas agir. C'est toi qui vas œuvrer dans cette œuvre qui est la tienne. » Le danger pour toi, et puis pour moi bien entendu, c'est que Jésus ne soit plus à la première place et qu'il ne soit plus glorifié. Et ça, c'est une phrase que j'aime bien me répéter aussi pour moi-même, mais que je te le dis aussi, fais attention à ne pas faire de l'ombre à Christ. Fais attention de ne pas faire de l'ombre à Christ. Que Jésus reste ou revienne sur le trône de ta vie. Le deuxième principe, c'est qu'il est arrogant. Il tient de méchants propos contre nous. On le sait, la meilleure défense est l'attaque, et Diotref ne va pas s'en priver. Il s'attaque à l'autorité pour défendre sa place. Il n'a pas peur de s'attaquer à Jean, le dernier disciple de Jésus vivant. Il n'a aucune considération pour celui qui a vécu 3 ans avec Jésus. un homme qui a été directement enseigné par le maître, qui a eu vraiment un contact non seulement dans la parole, mais aussi contact physique avec Jésus. Il n'a pas non plus d'égard pour Jean, ce disciple que Jésus aimait. Et la Bible du Seigneur traduit, il ne tient aucun compte de nous. Diotrephe a atteint un point grave. Il n'est plus enseignable. Il est devenu spirituellement sourd. Il ne tient plus compte de l'autorité instituée par Dieu. La parole de Dieu, et ça c'est grave, n'a plus d'effet sur lui. Alors j'aimerais te dire, fais attention à toi-même, sois enseignable. Quand tu viens au culte, aie cette prière en disant, mais Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. J'aimerais que mon cœur soit ouvert et j'aimerais recevoir ce que tu as pour moi. Ne ressemble pas à ce passage que l'on trouve dans Zacharie 7, verset 11, mais ils refusèrent d'être attentifs. Et un peu plus loin, ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant. Je t'encourage ce matin à que ton cœur soit malléable par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit puisse vraiment œuvrer partout dans ta vie. Tu es invité à aller de transformation en transformation. Je suis invité à aller de transformation en transformation. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça qui, je trouve, est exaltant dans la vie chrétienne, c'est qu'il n'y a pas de stand-by. On va de l'avant. On avance petit à petit, peut-être pas après pas, mais on avance. Et ça, seul le Saint-Esprit peut faire cette œuvre dans ta vie. Le troisième principe, c'est qu'il ne vit plus l'Évangile. Il ne reçoit plus les frères, comme il le dit le verset 10. Et là, il est utile de parler des prédicateurs de l'époque. Nous voyons avec Paul, Apollos et bien d'autres, qu'il y avait beaucoup de prédicateurs qui se déplaçaient dans l'Empire romain, et cela pour annoncer l'Évangile au lointain. Nous avons lu dans cette épître qu'il ne recevait rien des païens. Et pour cause, c'est que les seules auberges qui existaient à ce moment-là, c'était vraiment des buis, des endroits malfamés et qu'il fallait surtout éviter. Alors pour ces prédicateurs, le seul endroit où ils pouvaient loger, c'était chez des chrétiens, où ils étaient reçus et puis où ils n'étaient pas en danger. On voit que tout au long de la Bible, l'hospitalité est indispensable. Elle n'est pas seulement culturelle, et ça j'aime à le dire, elle doit faire partie intégrante de ta vie, et cela bien sûr selon tes moyens. Dans Romains 12, verset 13, il est dit « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité ». Ça, c'est un commandement, c'est pas juste un conseil, c'est un commandement. Les saints ici ne sont pas seulement les hommes de Dieu, mais également tous les chrétiens. Diotrephe, on le voit, sort des commandements bibliques en ne recevant plus selon l'Évangile. Je t'encourage, malgré que c'est pas vraiment le thème, je t'encourage à inviter des frères et des sœurs chez toi. Ce sera vraiment une bénédiction pour ta maison. Bien-aimé, bien-aimée, n'imite pas le mal, mais le bien. Dernier point, il est autoritaire, il chasse ceux qui reçoivent. Diotrephe, qui a vraiment peur d'être, qui est tellement menacé, qui a peur dans sa vie chrétienne, arrive même à chasser de l'Église ceux qui font bon accueil. Il est tellement rempli d'orgueil qu'il prend une autorité de dictateur. Dieu est complètement exclu de son comportement. On voit qu'il fait fausse route. Il est sorti de l'œuvre que Dieu a pour lui. L'orgueil l'a complètement aveuglé. Car l'orgueil, si vous ne le savez pas, l'orgueil aveugle. Une personne qui est où il y a une part d'orgueil ne voit plus vraiment la réalité. Et j'aime bien ce que un orateur très connu disait, l'orgueil, c'est comme la mauvaise haleine. Celui qui sent mauvais, de la bouche bien entendu, est le dernier à s'en apercevoir. Il est bon que tu te remettes continuellement en question dans ta propre vie pour voir s'il ne rejaillit pas dans certaines situations. Parce que c'est souvent dans certaines situations qu'il rejaillit. L'orgueil est comme une mauvaise herbe qu'il faut sans arrêt couper. Elle repousse tout le temps. Il faut sans arrêt la couper. Alors on peut se poser la question, que faire ? Que faire pour que l'orgueil disparaisse petit à petit de ta vie ? Je ne parle pas de ton voisin, je ne parle pas de ta voisine, je ne parle pas de ton conjoint, je parle à toi-même. Quels sont les antidotes, quelles actions peux-tu entreprendre ? Nous arrivons au deuxième point, les antidotes. J'ai appelé cette partie les antidotes car je crois que l'orgueil est un véritable poison. Un poison qui peut, hélas, se répandre dans ton cœur et malheureusement aller jusqu'à l'Église. Fais le point. Et là, nous sommes vraiment dans le sérieux. Il faut vraiment couper les mauvaises herbes en commençant chez toi. Et c'est dans l'épître de Pierre que nous trouvons un verset qui donne véritablement un coup de sécateur. 1 Pierre 5, 5 dit, tenez-vous bien, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça c'est la bonne nouvelle, heureusement. Pierre qui a écrit cet épître a vécu ce verset vraiment, après son triple reniement de Christ, juste avant que Christ soit crucifié. Dans Luc 22, verset 62, il est écrit, étant sorti, il pleura amèrement. On parle de Pierre ici. Pierre est passé par un véritable brisement et il en a pleuré. Il s'est rendu compte de son orgueil, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas aller plus loin avec Jésus-Christ, qu'il ne pouvait pas accompagner Jésus-Christ sur la croix. Le premier pas, c'est d'être honnête et de faire le point. Où en suis-je par rapport à mon propre orgueil ? Le mien, pas celui de l'autre, le mien. Cela peut faire mal, comme un coup de sécateur. Je crois que le fait de vivre dans l'insouciance vis-à-vis d'une chose aussi importante ne peut que t'apporter du mal. Du mal pour toi, mais aussi également autour de toi, comme nous le voyons avec Diotrephe. Ne te trompe pas toi-même. Proverbe 26, verset 12 le dit, si tu vois un homme, si tu vois une femme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ne sois pas cet homme ou cette femme qui se croit sage. Accepte, ose te regarder tel que tu es. Si c'est le cas que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, l'orgueil, c'est aussi. Nous avons lu qu'il y a aussi la grâce. Dieu va te pardonner, Dieu va te redonner un nouveau départ. Change d'attitude. Un autre conseil, c'est sois toi-même. Ne montre pas aux autres une image avantageuse qui ne reflète pas la réalité. Quand tu te lèves le matin, ne te pose pas la question, mais quel masque je vais mettre ? Est-ce que je vais mettre le masque sourire ? Est-ce que je vais mettre le masque compatissant ? Sois toi-même. Je vais te dire une chose, c'est que même un masque bien porté, même bien façonné, cela se voit. On se rend compte quand une personne ne montre pas la vérité. Romains 12, verset 9a dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ne sois pas un hypocrite. Montre-toi tel que tu es. Sois vrai. Vis dans la vérité. Et tu avanceras ainsi avec Christ. Tu pourras apporter ainsi un amour sincère vis-à-vis des autres. Et les autres verront et seront une chose qui est impérative pour l'Évangile. Ils sauront que ce que tu vis est vrai, que ce n'est pas du semblant. Pense aux autres. Détrône ton moi. L'orgueil te pousse à avoir un regard hautain, un regard qui dit « ben, je sais tout ». L'inverse est un regard bienveillant. Et ce changement d'attitude modifie complètement ta position vis-à-vis de ton entourage. Au lieu de lui être supérieur, tu t'intéresses sincèrement à ce que vit l'autre. Romains 12, verset 9 dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. » C'est un honneur de devenir serviable. D'aller vers l'autre et même d'aller au-devant de ses besoins, de lui poser cette question « Mais est-ce que je peux t'aider ? Je vois que tu as de la peine ici, est-ce que je peux t'aider ?» Aller vers cette personne avant qu'elle le demande. Et ainsi tu entres dans les œuvres que Dieu a pour toi. Ton cœur, au lieu de s'élever, commence à s'attendrir envers les autres. Et une chose qui devient nouvelle, c'est que tu commences à prier pour les autres, à les bénir afin que eux soient autant bénis que tu l'es. Seul un cœur attendri par le Saint-Esprit peut faire cela. Recherche l'humilité. Le roi David dit dans le psaume 131, verset 1, et c'est le roi David, il était roi autrement que nous-mêmes, il dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. » Devant ses responsabilités royales, devant ses soucis qu'il devait avoir pour diriger tout un peuple, on voit que David marche dans l'humilité. C'est impressionnant. Je suis impressionné quand je lis ce verset et que je me rends compte que ce roi disait cela. Je me dis, mais il y a vraiment une leçon à prendre. Il fait attention à ce qu'il vit. Et David savait une chose, c'est qu'il était à la place voulue par Dieu. Je t'encourage à prier pour savoir quelle est la place que Dieu veut pour toi dans son œuvre. Ça, c'est important. Tu seras satisfait de la place que Dieu va te donner et tu n'auras pas besoin de chercher ailleurs pour trouver une autre place qui n'est pas la tienne. Paul dit dans Romains 12, verset 6, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Romains 12, 6. Recherche une fonction qui est dans tes possibilités, que tu peux faire aisément. Quoi que tu fasses, deviens un serviteur, deviens une servante, deviens un serviteur quand tu tiens le balai, quand tu tiens l'aspirateur, quand tu ranges les chaises, quand tu prépares un cake, fais-le pour lui. Deviens aussi un serviteur quand tu prends la parole en public. Et ça, je le dis aussi pour moi, quand tu chantes sur l'estrade, n'oublie pas que tu es au service des autres. C'est important. Le meilleur serviteur, c'est celui, lors d'un repas, qui fait bien son travail et qui est tellement discret qu'on l'oublie aussitôt. Luc 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Sois fidèle et engagé dans ce que tu accomplis déjà, continue à faire le mieux que tu puisses le faire et afin que Dieu soit seul glorifié. Être humble a des bénéfices. Être humble t'apporte la paix, comme nous l'avons vu avec David. J'ai l'âme calme et tranquille. C'est vraiment être humble, c'est laisser la possibilité à Dieu d'œuvrer dans ta vie. Dans le livre « L'humilité, la vraie grandeur », Mahaney dit « La personne humble est celle qui attire l'attention de Dieu. Et attirer son attention signifie aussi attirer sa grâce, sa bonté imméritée. » Il y a vraiment une relation intime entre un homme humble, une femme humble et le grand Dieu de l'univers. Quand tu vis dans l'humilité, tu peux dire la même phrase que Job a dit dans Job 42, verset 2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Ça, c'est l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître ses limites et laisser Dieu agir. L'humilité est une source de paix. La troisième partie, les exemples, d'abord Gaius. Gaius, même s'il n'a pas pu arrêter Diotref, est un exemple à plusieurs égards. Malgré les menaces de Diotref, il continue à recevoir les chrétiens. Il accomplit l'évangile. Il reste dans la vérité, ce qui fait la joie de l'apôtre de Jean qui écrit cette lettre. Il reste dans l'Église, même si Diotref l'a certainement poussé à partir. On peut dire que Gaius vit l'expression que l'on connaît bien, il reste droit dans ses bottes. Il ne dévie pas de l'Évangile et c'est tout à son honneur. Démétrius est aussi un exemple, il rend bon témoignage. Et son témoignage est si frappant qu'il est reconnu même dans les autres églises. Tenez-vous bien, pas seulement dans son église, mais aussi ailleurs. Et on voit tous deux vivre dans la vérité, et c'est le thème principal de cet épître, c'est la vérité. Jésus dit « Je suis la vérité, le chemin, la vie, nul ne vient au Père que par moi » Jean 14, verset 6. Et si tu ne connais pas vraiment la vérité ce matin, je peux t'encourager à dire, ben, Seigneur, j'aimerais la connaître, j'aimerais dire, j'aimerais connaître la vérité que procure l'Évangile. Et tu peux lui dire, Seigneur, je m'approche de toi et je te donne mon cœur, je te donne ma vie et je te demande pardon pour les erreurs que j'ai faites, les mal que j'ai faits, je veux changer et viens à mon secours. Et il le fera ce matin même. En conclusion, contrairement à la vision du monde, où il faut monter les échelons, quitte à écraser les autres pour aller plus haut, l'Évangile apporte une meilleure solution, c'est l'humilité. La vraie humilité est indispensable si tu veux avancer dans ta vie chrétienne. Demande à Dieu quelle est ta place, ça c'est important. C'est important que tu saches quelle est ta place dans son œuvre devant lui. Accomplis la tâche que Dieu t'a donnée et fais-la avec zèle. Fais-la le mieux que tu puisses le faire pour le patron des patrons. Soutiens les autorités de l'Église dans la prière. Prie pour eux. Ce ne sont pas des hommes infaillibles. Ils ont besoin de tes prières. Éloigne-toi des gens remuants comme Diotref. Ne te laisse pas embarquer dans leur discours de révolte. Suis uniquement l'Évangile. Reste dans la voie que Dieu a pour toi. En bref, pratique le bien. Alors j'aimerais juste terminer par un court témoignage. Je me suis converti dans les années en 1977. Dans les années 80, j'étais responsable d'un groupe de jeunes. C'était après avoir fait Jeunesse en Mission. Et puis, j'étais jeune, hein, mais ça n'excuse rien. Mais je voulais bien faire. Et puis, je pensais que je pouvais changer ces jeunes en faisant bien. Et malheureusement, j'en ai écrasé certains. Et puis, c'est que des années plus tard que j'ai dû vraiment demander pardon à Dieu pour cela. Je le dis humblement devant vous, j'ai dû vraiment demander pardon. Et ça me fait toujours de la peine de rencontrer l'un ou l'autre qui n'est pas plus dans le Seigneur, qui peut-être il n'était pas entièrement à l'époque, mais qui n'est plus dans le Seigneur. Et pour moi, c'est lourd. Et j'ai dû demander pardon. J'ai dû apprendre ce message. Le message que je vous ai apporté, c'est pas le message de quelqu'un qui a tout compris, c'est le message de quelqu'un qui apprend encore. Et je suis encore à la même école que vous, c'est-à-dire à apprendre l'humilité. Mais je crois qu'on ne peut pas passer à côté d'un message aussi important et de dire « Ah oui, bon, ben ça c'est pour l'autre ». C'est important que tu puisses vivre dans l'humilité et cette humilité te fera avancer. Et les autres le verront. Les autres verront, diront, ben, ceci, ça, j'ai du plaisir à être avec lui, j'ai du plaisir à être avec elle, car je vois le Seigneur agir dans sa vie. Je vois qu'il y a vraiment, il n'y a pas de façade. C'est vrai ce que cette personne vit. Et je crois que vivre dans l'humilité, ça t'amène à aller beaucoup plus loin même que tu penses toi-même. Nous allons prier. Oui, Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que même de mauvais exemples, tu peux en tirer de bons. Seigneur, donne-nous de vivre dans l'humilité, de te mettre à la première place dans nos vies, sur le trône de notre vie, afin que ce soit toi qui sois au centre, que ce soit toi qui sois sur le trône, afin que les autres le voient. Oui, Seigneur, te prions vraiment que nous puissions vivre l'humilité et que ton évangile, ton nom soit glorifié seulement. Que nous ne fassions que nous soyons que des serviteurs, des servantes à ton service. Seigneur, que nous puissions te glorifier par ce que nous vivons. Au nom de Jésus. Amen.